nouveau. C'est aussi une vieille fonction de la médecine, mais que nous devons défendre dans les meilleures conditions possibles, en respectant la volonté des patients. Il est clair que toutes les personnes qui souffrent dans le cadre d'une maladie grave et incurable sont amenées à réfléchir sur leur fin de vie et souhaitent qu'on puisse les aider. On n'a pas dû attendre la loi de 2002 pour cela, donc ça c'est un élément important. Et ça continue dans mon service, on a plusieurs personnes qui évoquent leur crainte par rapport à la mort, non pas de mourir, mais la manière dont ça va se passer. Et nous, on est là aussi pour les rassurer, leur dire, ben, si on n'en sort pas, on pourra vous aider. On va tout faire pour que ça aille bien le plus longtemps possible. Mais si ça ne va pas, on pourra aussi vous aider. Quand un patient me parle de sa fin de vie, je lui dis, comment voyez-vous les choses? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce qu'on pourra faire pour vous aider? On ne propose jamais une aide active à mourir. On attend que le patient vienne avec ses demandes, ses requêtes. Et ça ne se fait pas en 5 minutes, ça ne se fait pas sur un coin de table. Ça demande pas mal d'entretiens, de rencontres. Il faut rencontrer évidemment l'équipe soignante, il faut rencontrer les proches que le patient aura désignés, tout en sachant que toutes les demandes n'aboutissent pas. Le patient se met dans une situation de protection, se disant « si ça ne va pas, le médecin pourra m'aider, mais si tout se passe bien, tant mieux ».
Quand ils demandent la mort et que vous leur donnez la mort, l'euthanasie, comment ça se passe? Vous les accompagnez, vous les touchez, vous leur parlez?
Alors c'est une question qui revient souvent maintenant. Avant, on se posait la question de savoir s'il faut le faire. Et maintenant, on nous demande comment ça se passe. Donc il y a un changement dans les paradigmes de la façon de considérer les choses. Mais on ne laisse jamais tomber la personne, au sens pur du terme. Et on sera là le jour dit, à la demande du patient. C'est souvent d'ailleurs un jour très particulier, où c'est surtout le patient qui est le plus détendu, qui est enfin soulagé parce que ça va enfin se terminer, tout son chemin de souffrance. Et nous sommes dans une dynamique très particulière. On va rendre le dernier service. On est à la fois touché par ce qui se passe et on se dit qu'on va vraiment faire plaisir à la personne tout en posant un geste dont on connaît l'issue. C'est-à-dire qu'on sait que dans les minutes qui suivront, cette personne ne sera plus là. Donc on sera à ses côtés, souvent accompagné par la famille, des amis. Enfin, c'est tout un phénomène très, très interpellant, en contradiction avec les idées reçues. Ce n'est pas épouvantable, évidemment il y a du chagrin, mais c'est que tout le monde sait que la personne souhaitait cela et qu'elle partira dans les meilleures conditions possibles. Donc il y a quelque chose qui participe de l'humain extrêmement fort. Les adieux se font de façon un petit peu comme dans le temps, on estimerait la mort pacifiée, où le patient a autour de lui les personnes qu'il souhaitait et peut dire encore des choses en étant pleinement conscient.
Comment est-ce que vous, personnellement, vous gérez ça émotionnellement?
Mais c'est une question qui est aussi récurrente. Tout le monde s'inquiète pour notre santé mentale par rapport à cela. Et c'est, je pense, une très bonne chose. Ce sont des situations, je dirais, exceptionnelles dans la mesure où la plupart des décès surviennent en dehors d'une euthanasie, on le sait. Donc c'est quand même pas du tout comme ça que les choses se passent. Et donc notre vécu par rapport à la mort doit être, bien entendu, analysé régulièrement. On en parle entre collègues, on a des séances de supervision, on a d'autres activités parce que nous ne faisons pas que ça. On sait qu'on vit des choses difficiles, mais on vit aussi des choses très agréables avec les patients. Il y a des moments de plaisir, de joie, et l'empathie, c'est ça aussi, c'est de comprendre la difficulté, mais aussi les joies, et de pouvoir participer au plus près de la vie des patients, sans se laisser absorber par la détresse, et en évitant aussi de construire des remparts contre cette détresse. On ignore la détresse d'autrui. Donc je pense que ça, c'est tout un travail qui relève autant d'un travail personnel que de la philosophie, que d'une réflexion sur la pratique.
Vous avez un étui à musique, là, c'est quoi?
Eh bien voilà, je ne peux pas vous mentir, vous avez derrière vous, c'est un violon, et là c'est une guitare. Donc dans mon bureau, j'ai des instruments de musique, il n'y a pas que des instruments médicaux. Pourquoi devrais-je attendre le soir pour le faire? Si j'ai 5 minutes sur l'heure du midi, ben je prends ma guitare et je fais quelques accords et ça me détend. Ah, je ne sais pas si c'est accordé. Je chante aussi. Je vais me faire chanter. Un petit Brassens peut-être, comme ça. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Le temps d'un instant secret, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais.
Carlo Leux est le président de l'Union bouddhique belge et fondateur du Centre d'études tibétaines à Bruxelles. Il nous reçoit dans le temple tibétain à Saint-Gilles.
Les gens viennent ici tous les jours vers 6h30 pour faire une méditation silencieuse. Donc c'est ouvert à tout le monde. On n'est pas nécessairement bouddhiste, donc il y a des chrétiens, il y a des laïcs, des athées, des musulmans, des juifs.
Et là, on échange, on dépose son bagage de stress, de problèmes personnels.
C'est surtout laisser calmer l'esprit. Et puis après, une fois qu'on a appris ces techniques pour pacifier l'esprit, on apprend à aller plus en profondeur.
Calmer l'esprit, c'est aussi calmer les angoisses, peut-être plus existentielles, comme celle de la peur de la mort.
Oui, tout à fait. Dans le bouddhisme, on dit qu'on ne peut pas vivre pleinement si on n'a pas intégré la mort dans sa vie. La mort fait partie de la vie. Il n'y a pas de vie sans mort, il n'y a pas de mort sans vie. La mort est une opportunité. On se prépare à la mort. La mort nous permet d'atteindre un niveau de conscience qu'on appelle la sagesse. Donc ça peut être une richesse. Si on peut vivre avec la mort, on peut être heureux. Dans notre société, il y a le déni de la mort. Et chaque fois qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui est mort, on pleure, on est triste, et puis après, on essaie de vite oublier le plus vite possible. Les cimetières qui étaient au centre des villages à l'époque sont maintenant très éloignés. On ne veut pas être confronté à la mort. C'est une erreur parce qu'on ne résout pas cette angoisse avec laquelle on est né. Et donc, on va méditer là-dessus, analyser. En fait, on meurt à chaque instant. Tous les soirs, on va dormir, et puis le matin, on se réveille. C'est comme une nouvelle vie. Entre chaque pensée, il y a un vide. Et on se rend compte que vie et mort sont intrinsèquement liés. Et on médite beaucoup sur ce qu'on appelle l'impermanence de tous les phénomènes. Tout est éphémère, rien n'est permanent, ni nos relations, ni notre corps, ni nos possessions, ni notre situation.
Il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a pas de lendemain, c'est simplement, on est un passage.
Non, parce qu'il y a, en fait, on parle de réincarnation. Mais dans notre société, on pense réincarnation, c'est moi, je vais mourir et puis je vais renaître, et c'est de nouveau Jacques ou Jules ou Nicole qui va... Mais en fait, comme tout est impermanent, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas un moi qui ne change pas. Nous sommes en fait un flux d'énergie, de caractéristiques physiques, mentales, verbales, etc. Et donc, il y a la physique, évidemment, qui va disparaître, mais donc il y a aussi le mental qui continue ce flux d'énergie. Là, c'est lié à ce qu'on appelle la loi du karma. C'est une loi cosmique qui implique que chaque acte qu'on pose, chaque parole qu'on prononce, chaque pensée qu'on émet, sème des grains. Si ce sont des actes qui sont nocifs à autrui, c'est comme planter un grain d'une plante empoisonnée, ou ça peut être un fruit qui est merveilleux. On crée les conditions de notre avenir. Et donc, quand on meurt, et là, dans le bouddhisme tibétain particulièrement, on entre dans le bardo. Le bardo veut dire état intermédiaire. Mais donc, l'expérience continue. Mais ce ne sera pas Nicole qui va être une nouvelle personne, mais c'est cette nouvelle personne qui va porter le bagage karmique créé par Nicole dans cette vie.